France Info.
20h, 21h, France Info, les informés. Benjamin Fontaine.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les informés de France Info. Des boules de feu comme des étoiles filantes dans le ciel israélien cette nuit. Plus de 300 drones et missiles ont été envoyés sur l'État hébreu par l'Iran et ses alliés. Premier face-à-face direct entre Israël et son ennemi juré. Et la question d'une éventuelle riposte se pose maintenant. Israël va-t-elle écouter la voix de la raison, celle de Joe Biden, ou va-t-elle répliquer? Et si oui, avec quelle force? La communauté internationale prépare sa réponse diplomatique, mais sera-t-elle entendue? Quelles peuvent être les conséquences de ces frappes dans la zone? On va se poser toutes ces questions ce soir. On s'interrogera aussi sur le rôle de la France. Ce dimanche signe aussi la fin d'une nouvelle semaine de prise de parole de femmes à la fois dans l'armée et dans le monde médical. Comment délier les langues de la grande muette? Comment en finir avec les ambiances carabines dans les salles de repos? On ouvrira ce deuxième débat dans les informés. Autour de la table ce soir pour nous éclairer sur ces sujets et nous donner leur avis, ils sont quatre à Asni Abidi, directeur du CERNAM, le centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Bonsoir.
Bonsoir.
Jeannick Halimi, éditorialiste politique. Bonsoir.
Bonsoir.
Amélie Le Breton, présidente de l'agence de communication Coriolink. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et François Hernevein, responsable éditorial du journal Réforme. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h sur France Info. Plus de 300 drones donc et missiles envoyés en quelques heures. L'Iran a donc lancé cette nuit une attaque inédite sur le sol israélien. Avec le soutien du Hezbollah libanais et des rebelles houthis, une réponse à la frappe attribuée à Israël le 1er avril contre le consulat iranien à Damas, en Syrie. À l'heure qu'il est, l'Iran s'estime vengé. Écoutez le général Mohammad Bagheri, chef des forces armées iraniennes.
L'opération promesse tenue s'est déroulée avec succès de la nuit dernière à ce matin et a atteint tous ses objectifs. La raison de cette opération était le franchissement des lignes rouges par le régime sioniste. Nous considérons cette opération comme achevée et nous estimons qu'elle est terminée.
Déclaration faite dans la matinée à la télévision iranienne. L'Iran qui promet de ne pas répliquer si Israël ne s'en prend pas à ses intérêts. Et toute la journée, des États-Unis à la Turquie, il y a eu ces appels au calme, ces condamnations. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir. Une réunion du G7 a eu lieu cet après-midi. Un cabinet de guerre en Israël. Israël où nous nous rendons tout de suite pour retrouver notre correspondant sur place, Thibault Lefebvre. Bonsoir Thibault.
Bonsoir Benjamin.
Alors
bonsoir,
ce cabinet de guerre vient de se terminer, que doit-on en revenir, qu'en sait-on?
Oui, il y a un peu moins d'une heure maintenant. Il n'y a pas d'annonce à attendre ce soir d'Israël, parce qu'encore une fois, comme depuis le début, l'arrivée de cette coalition au pouvoir en décembre 2022, eh bien encore une fois, il y a des désaccords au sein de l'exécutif et ils sont apparus au grand jour avec d'un côté des ministres de la droite israélienne la plus extrême, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, qui eux ne participent pas à ce cabinet de guerre, mais sont évidemment très influents et qui poussent pour une réponse immédiate à la hauteur de l'agression que le pays a subie la nuit dernière. Et puis d'autres, plus modérés, qui préfèrent temporiser sans pour autant éliminer l'hypothèse d'une réplique, une posture d'en même temps. C'est le cas de Benny Gantz notamment, ancien chef d'état-major. Il s'est exprimé, c'est un des rares à s'être exprimé, tout à l'heure, affirmant que l'événement n'était pas terminé, qu'il voulait que l'Iran paie le prix fort, mais en temps voulu, après avoir mis sur pied une coalition. Et puis le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui lui est sur la même ligne. Pas de déclaration du principal intéressé, du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui est donc pris en étau entre les bellicistes de sa coalition et puis, vous l'avez signalé en préambule, son allié américain qui a tout simplement permis hier à Israël de protéger l'intégralité de son territoire. Le président Joe Biden considère donc qu'Israël a su faire face, que la séquence est terminée, qu'Israël ne doit pas répondre au risque de perdre le soutien de ses forces armées disposées dans la région.
Thibault, la nuit a évidemment été pleine de tensions pour les Israéliens. À quoi a ressemblé la journée ?
Écoutez, ce qui est marquant ici, je suis arrivé au petit matin à Jérusalem. Il y avait du trafic dans la rue, il y avait des voitures. Ce qui est marquant, c'est la résilience des Israéliens. Ils étaient clairement préparés à une attaque. Les écoles étaient fermées, les rassemblements étaient limités, un état d'urgence en quelque sorte. Et ils ont pu prendre le temps d'aménager les abris pour pouvoir faire face la nuit dernière. Il y a un blessé grave, une petite fille de 7 ans près de la ville de Beersheva, c'est dans le sud d'Israël. Quelques blessés légers, un bilan dramatique évidemment, mais dérisoire quand on sait que 60 tonnes d'explosifs ont été envoyées d'Iran et du Yémen la nuit dernière. La principale raison, c'est évidemment cette capacité d'interception exceptionnelle, la défense antiaérienne mobilisée par Israël, évidemment, les États-Unis, la Grande-Bretagne, dans une moindre mesure la France, mais aussi la Jordanie, et puis donc cette aptitude de la population à se préparer au pire. Alors aujourd'hui, la vie a repris ici à Jérusalem, comme dans tout le pays, avec la réouverture notamment de l'espace aérien, et puis les vacances de Pâques qui se prolongent jusqu'à début mai. Un semblant de normalité, alors que je vous rappelle que des otages israéliens sont encore à Gaza, 133, dont moins d'une centaine seraient encore vivants, que la guerre continue dans l'enclave, plus de 33 000 morts selon le bilan du ministère de la Santé lié au Hamas, des chiffres confirmés par l'ONU et par l'autorité palestinienne. Et puis la guerre continue aussi au nord du pays, à la frontière libanaise. 60 000 déplacés israéliens attendent toujours de pouvoir rentrer chez eux.
Et vous évoquiez, Thibault, les otages. À l'instant, l'armée israélienne affirme que ces otages sont retenus à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Merci beaucoup, Thibault Lefèvre, pour toutes ces précisions. Thibault Lefèvre, notre correspondant de France Info, en direct de Jérusalem.
20h, 21h, les informés, Benjamin Fontaine.
La suite des informés sur France Info avec toujours Yannick Halimi, éditorialiste politique, François Ernevein du journal Réforme, Amélie Le Breton, présidente de l'agence de communication Coriolink, et Hasni Abidi, directeur du centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Je me tourne vers vous tout de suite, Hasni Abidi. L'affaire est close, a dit l'Iran dans la journée, sauf si Israël commet une nouvelle erreur. Israël ou ses partenaires d'ailleurs, est-ce qu'on doit y croire?
Oui, c'est vrai, c'est la deuxième frappe, la réponse israélienne qui va déterminer la suite dans la région. La riposte iranienne était actée par tous les États de la région, par les États-Unis en premier, et d'ailleurs les Iraniens ont tenu à informer les États-Unis mais les pays voisins. Mais la réponse israélienne, évidemment, elle sera importante, et on ne sait pas la nature de cette frappe. Je pense que les Iraniens ne vont pas aussi en rester là, ils vont répondre, mais probablement en augmentant un petit peu la cadence de cette frappe, soit d'une manière directe, ou bien sûr avec leurs relais dans la région.
Mais vous pensez que les relais, justement, peuvent jouer un rôle et utiliser justement leurs forces pour aller toucher Israël aujourd'hui?
Vous avez bien vu que cette frappe était une frappe calculée, une frappe qui est sous contrôle d'abord iranien, et on a vu que les Iraniens aussi ont demandé à leurs relais, notamment le Hezbollah, mais aussi les Houthis. Finalement, ils n'ont pas franchi la limite qui a été jusque-là tracée par les Iraniens. Certes, la réponse iranienne était combinée, elle était de grande ampleur. On a un conflit qui existe depuis 1979, depuis la révolution islamique iranienne, entre l'Iran et Israël. Mais la nouvelle donne qui s'offre à nous, c'est que ce conflit, il n'est plus à l'abri. Il est maintenant transparent. Et donc, on va voir comment les Iraniens, qui jusque-là plutôt utilisaient leur relais dans la région, cette fois-ci, on a affaire à un conflit frontal, conflit direct.
Et pourquoi justement l'Iran s'est-elle permise de commettre ce qu'elle n'a jamais commis auparavant ?
Parce que l'Iran était d'abord sous une pression interne. Il est très difficile pour le régime iranien de laisser passer cette attaque de 2 avril dans un bâtiment consulaire à Damas, d'autant plus que le régime iranien a été critiqué par la tiédeur de sa réponse lors de cette frappe américaine qui a touché un homme important, c'est Qassem Soleimani. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que les Iraniens vivent finalement avec cet équilibre de force, avec cette dissuasion entre les Iraniens. Leur image, leur crédibilité était en jeu vis-à-vis de l'intérieur, vis-à-vis de leur relais dans la région, mais vis-à-vis aussi des pays du Golfe. Donc il fallait en quelque sorte répondre pour ne pas justement permettre aux Israéliens de franchir encore une étape supplémentaire.
Et on a entendu les dissensions au sein du cabinet de guerre avec Thibault Lefèvre qui nous expliquait à l'instant ce qui a pu se dire. Est-ce qu'on peut imaginer ce soir qu'Israël riposte dès à présent ou dans les prochains jours ?
Il y a que les Américains qui sont au courant, comme ils étaient déjà informés par les Iraniens. Mais vous savez, Israël a bénéficié d'un soutien important. Certes, les systèmes antiaériens ont fonctionné, mais ils ont fonctionné grâce au soutien de 5 États, dont la Jordanie, les Américains, les Français, les Allemands. Il faut relever tout de même cette information importante, c'est que même la coalition ou les forces militaires de la coalition anti-Daesh stationnées entre l'Irak et la Syrie aussi a été mobilisée. Je pense que ce soutien a un prix que les Américains et les autres pays qui ont participé vont certainement le demander à Israël pour ne pas aller vers un embrasement général, d'ouvrir un franc supplémentaire en plus de francs qui déjà plusieurs francs qui sont ouverts avec le Liban et avec bien sûr le Hamas.
Et d'ailleurs, les États-Unis ont dit qu'ils ne soutiendraient pas une offensive contre l'Iran de la part d'Israël. C'est ce qu'ils ont dit dans la journée. Jannik Halimi, si certains en doutaient depuis quelques semaines, on vient de le dire à travers cette aide qui a été apportée à Israël. Israël a encore des soutiens et des soutiens au sein de la communauté internationale.
Oui, on pouvait en douter effectivement, notamment depuis la persistance de ce qui s'est passé à Gaza, même s'il y a eu une sorte de solidarité quasi internationale au moment du 7 octobre. C'est vrai que cette solidarité, y compris au sein des alliés, commençait non pas à se fracturer, mais enfin à se conditionner, on va dire. Et là, avec ce qui s'est passé dans la nuit sur l'ensemble des villes israéliennes à l'initiative de l'Iran, effectivement, montre que Israël n'est pas seul lorsque son existence même, puisqu'il s'agit de ça, tout de même. N'oublions pas que l'Iran ne reconnaît pas l'État d'Israël, ne le nomme même pas. Donc c'est l'État sioniste. C'est l'État sioniste et que je parle sous votre contrôle dans sa constitution, en tout cas dans un des textes fondateurs du régime qui s'est mis en place en 1979, il y a effectivement la suppression de l'État d'Israël en tant que tel. Alors oui, Israël effectivement n'est pas seul et elle a les États-Unis indéfectiblement lié et associé à sa survie, puisqu'il s'agit bien de survie. Et puis on a montré aussi les Européens une solidarité quasi unanime. Donc ça, c'est d'un pire peut sortir un petit peu de mieux, si je puis dire. Ça, c'est quand même entre guillemets toutes choses égales par ailleurs la bonne nouvelle pour Israël, bien sûr. Mais attention, Israël n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. On le dit, on le répète, c'est un peu tout l'enjeu du moment dans la suite à donner à ce début de conflit,
à ce conflit,
comme à cette frappe qui n'est plus à l'abri mais qui est sur la place publique.
François Hernenven, justement, Joe Biden a tout intérêt à calmer le jeu. Il y a une élection présidentielle à la fin de l'année, il n'a pas d'intérêt à aller s'embourber dans un nouveau conflit.
Non, à l'évidence, il ne le souhaite pas, il n'a pas intérêt, il fera tout pour l'éviter. Et comme ça a été dit à deux reprises, les Américains ont des moyens de pression sur Israël. Moi, ce qui m'a frappé aujourd'hui, quand j'écoutais les déclarations venues du monde entier, c'est l'amorce d'une désescalade. On est encore à observer ce que va faire Israël, mais tous les messages envoyés à Israël, y compris les messages iraniens, sont plutôt des messages invitant à calmer le jeu. Et là, la probabilité la plus grande, en tous les cas, à cause de la domination américaine sur Israël, c'est que au final, Israël se contente d'aller taper un peu du côté du Hamas, du Hezbollah ou des Houthis, mais n'engage pas une opération formidable contre l'Iran, parce que qui, aujourd'hui, a intérêt à l'escalade ? L'Iran, certainement pas. Aujourd'hui, c'est un pays grevé par l'inflation, divisé, dans une situation politique impossible, puisqu'il ne pourra pas mobiliser sa population dans une guerre engagée et avec Israël et avec les États-Unis. Donc pour l'Iran, l'horizon est bouché, et tous les autres ont intérêt, peu ou prou, à ce que ça ne s'embrasse pas.
Malheureusement, c'est souvent quand on a des problèmes internes que la dynamique conflictuelle est une diversion pour justement échapper à ces contraintes à l'intérieur.
Bien sûr, mais un calcul politique rationnel fait dire que les dirigeants iraniens, sauf à prendre des risques inconsidérés, n'auront pas intérêt à pousser le ballon trop loin. D'ailleurs, ils l'ont dit dans leur déclaration, ils ont dit match nul, maintenant on arrête.
Amélie Le Breton, en tant que spécialiste de la communication, j'imagine que vous observez ces prises de parole avec attention. On est dans des discours très attendus, selon vous ?
Alors, on est dans des discours qui sont très équilibrés parce que justement, il y a surtout l'envie d'éviter un embrasement dans cette région. Et on est sur un discours équilibré de la part de tous les dirigeants de grands pays. Hein. Même la Turquie, hein, Ankara, a demandé à ce qu'il y ait justement une désescalade. Là, Charles Michel, le président du Conseil européen, lui aussi a pris la parole en parlant de retenue. Il y a le communiqué de presse donc des membres du G7 qui se sont retrouvés dans l'après-midi et qui ont exprimé aussi, un, avec fermeté, une solidarité vis-à-vis d'Israël, mais aussi une volonté, pareil, de désescalade, d'arrêter les tensions. Pourquoi ? Parce que, vous le disiez, il n'y a aucun intérêt, enfin, personne n'a intérêt à une escalade. Et maintenant, finalement, on va attendre de savoir ce que va faire Israël. Et donc, il y a les discours officiels, donc ceux qu'on nous donne. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on ne va pas savoir, nous, citoyens, parce que ça va se jouer en coulisses. Et là, en coulisses, on imagine les tractations, notamment entre les États-Unis et Israël, où Joe Biden est donc l'allié naturel d'Israël, doit certainement faire pression, vous l'indiquiez tout à l'heure, pour que justement il n'y ait pas de nouveau une réponse qui amènerait ensuite l'Iran à ne pas rester sur un apaisement des tensions. Enfin, l'Iran a quand même dit vraiment sur X, donc anciennement Twitter, c'est la mission iranienne à l'ONU qui a dit exactement l'affaire peut être considérée comme close.
Oui, c'est ce qu'on entendait au début de l'émission, voilà. Effectivement, l'affaire étant close.
20h, 21h, les informés, Benjamin Fontaine.
Et ce soir, nos informés sont François Hennenven, responsable éditorial au journal Réforme, Amélie Le Breton, présidente de l'agence de communication Coriolink, Yannick Halimi, éditorialiste politique, et Asni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Nous continuons d'évoquer avec vous ces frappes iraniennes sur Israël cette nuit. À l'instant, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, ministre français des Affaires étrangères, nous signale qu'il a demandé au service du ministère des Affaires étrangères de convoquer dès demain l'ambassadeur d'Iran. On va revenir dans quelques instants justement sur la position de la France. Asni Abidi, je voudrais d'abord parler avec vous de la Chine et de la Russie alliées de l'Iran et qui ont également appelé à la retenue. Assez classique, normal, selon vous, ce discours?
Oui, c'est une procédure tout à fait habituelle. Il faut rappeler que l'Iran est un client très important pour la Chine. Il y a une collaboration qui est très importante. Malgré les sanctions économiques, la Chine et la Russie continuent de commercer avec l'Iran, ce qui constitue quand même une bouée de sauvetage très importante pour l'économie iranienne qui est en difficulté. Il ne faut pas oublier aussi que la séquence d'hier soir, elle intervient dans un contexte très tendu, dans un contexte de la guerre en Ukraine, et on connaît la position de la Chine et de la Russie dans ce conflit. Ils n'ont pas intérêt à ce que l'Iran glisse dans une guerre d'usure qui serait fatale pour ce pays. C'est pourquoi ces deux pays ont intérêt à ce que finalement la tension s'arrête là.
Et côté israélien, on a dit que les États-Unis ne suivraient pas Israël en cas de réplique. La France l'a dit aussi. Qui pourraient être les alliés d'Israël?
Alors, les alliés d'Israël, d'abord, on a vu hier, plusieurs États ont fermé leur espace aérien, ont observé une certaine neutralité, les pays du Golfe, notamment. La Jordanie, qui est liée par un accord militaire avec les Américains, a soutenu Israël d'une manière indirecte, ce qui a causé quelques ennuis pour la monarchie jordanienne. Donc, ceux qui soutiennent Israël, évidemment, c'est les États européens, c'est le G7, c'est l'Union européenne. Évidemment, les soutiens les plus importants, c'est la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc ça, c'est vraiment des soutiens. C'est des soutiens qui ont une capacité militaire, qui ont hier, leur soutien a été déterminant, tout simplement parce qu'ils étaient déjà présents, et ce sont leurs navires de guerre qui disposent des systèmes anti-missiles très performants qui a donné un coup de main aux Israéliens. Mais attention, c'est-à-dire la question, c'est que rien n'est gratuit, le soutien, il n'est pas pour Netanyahou, il est pour Israël, pour la sécurité d'Israël. Vous avez vu les communiqués, on tient à préciser la sécurité d'Israël. Parce que, évidemment, il y a cette crainte que Benjamin Netanyahou cherche finalement cette escalade, à la fois pour durer, mais aussi pour alléger la pression grandissante sur lui, notamment par Biden, dans sa mauvaise gestion catastrophique, il faut le dire, de la guerre de Gaza, même à l'intérieur.
Alors justement, vous évoquez Gaza, Yannick Halimi, est-ce que ces frappes ne risquent pas de détourner l'attention sur ce qui se passe, justement, à Gaza?
C'est le risque pour les Gazaouis, effectivement. moment. On avait vu que depuis plusieurs années, le problème palestinien n'était plus du tout au cœur de la problématique au Moyen-Orient, que ce soit du fait d'Israël, que ce soit du fait même des autres pays arabes, et évidemment également des États-Unis qui étaient plus préoccupés, on le sait qu'ils le sont toujours d'ailleurs, mais enfin un peu moins quand même aujourd'hui, par la zone Asie-Pacifique et la Chine. Donc oui, c'est effectivement un peu le risque. Mais je voudrais tout de même revenir sur les propos de l'Iran. Pour moi, c'est terminé. Pour nous, c'est terminé. Et plutôt que de désescalade, moi, je parlerais plutôt de, comment dire, nécessité de tempérance, de modération. Effectivement, on parlait des discussions démocratiques qu'il y a au sein du gouvernement de Benjamin Netanyahou, avec des faucons qui veulent carrément attaquer immédiatement, sans discussion aucune, sans préparation, le cœur même de l'Iran, et peut-être les quelques installations nucléaires ou pré-nucléaires, et d'autres comme Benny Gantz, qui est plutôt pour prendre du temps. Je pense qu'effectivement, il vaut mieux prendre du temps, mais prendre du temps pour se laisser le temps de la réflexion et de la discussion avec tous les alliés d'Israël, qui sont tous ceux qu'on vient de dire, ça ne veut pas dire, entre guillemets réellement, baisser les armes, parce que ce serait se tromper sur le caractère inédit et historique qui vient de se passer. C'est quand même la première, faudrait pas voir un verre à moitié vide alors qu'il est à moitié plein. C'est bien l'Iran qui, pour la première fois, est intervenu en direct au-dessus des terres israéliennes. Il faut pas oublier ça. Ouais. Moi, je pense que l'Iran est en train de tester Israël et de tester la volonté de défense de l'ensemble des alliés occidentaux. Et il faut surtout pas, sans aller jusqu'au bombardement en direct, montrer que l'Occident et les valeurs de l'Occident, Israël et les alliés occidentaux, soient faibles vis-à-vis de tout ce que représente l'Iran et ses alliés chinois et russes.
Eh bien, on va justement parler des alliés occidentaux dans quelques instants et de la position de la France notamment. On va poursuivre cette discussion dans les informés. Il est bientôt 20h30, l'heure du rappel de l'info. On se retrouve dans 5 minutes.
20h, 21h, les informés. Benjamin Fontaine.
La suite des informés sur France Info avec toujours Hasni Abidi, directeur du CERNAM, le centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Jannick Halimi, éditorialiste politique. François Hernenvan, éditorialiste politique au journal Réforme. Et Amélie Le Breton, présidente de l'agence de communication Coriolink. Nous sommes toujours ensemble pour évoquer ces frappes de l'Iran et de ses alliés sur Israël cette nuit. On va s'intéresser maintenant à la position de la France. La France qui a aidé à l'interception des missiles, a annoncé Israël très tôt ce matin. Et le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, le confirme à l'instant. Une déclaration d'Israël. Donc, qu'analyse pour nous Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po Paris.
Ce type de déclaration risque de ne pas faciliter les choses, bien entendu en direction de l'Iran, mais ça, les relations bilatérales franco-iraliennes ne sont pas véritablement au beau fixe, mais je dirais auprès de l'opinion publique dans le monde arabe. Et ça, ça sera un autre chapitre de réflexion à mener. Vous savez, il n'y a pas que les gouvernements qui comptent dans ce genre d'événements. Il y a aussi la réaction des opinions publiques. Entendre dire que la France a pris fait et cause pour Israël dans cette affaire risque de créer une sorte de malaise au sein de l'opinion publique arabe déjà mal disposée.
François Hernenvaid, comment interpréter le fait qu'Israël réagisse aussi rapidement ce matin et annonce cette participation de la France, selon vous ?
À mon avis, pour signifier lourdement qu'elle n'est pas isolée dans son combat, le concert des nations dans le soutien à Israël est quand même frappant. Moi, j'observais les déclarations. On n'a jamais vu un chapelet aussi cohérent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de remarquer, d'une certaine façon, l'ensemble des Occidentaux volent en fait, à mes yeux, au secours de la victoire. Parce que j'ai dit tout le mal qu'il fallait penser du régime iranien tout à l'heure, et aussi de son incapacité à véritablement organiser une riposte, mais sur le fait même de ce qui s'est passé. 99% des missiles ou des drones envoyés ont été interceptés. Mmh. Et puis, j'entendais sur votre antenne cet après-midi un député du Likoud se réjouir de l'intervention iranienne parce que ça remettait Israël en position de victime et ça permettait de faire oublier un peu ce qui se passait à Gaza. Mmh. Donc, il y a aussi un jeu de communication terrible autour de cette affaire. Mais sortons quand même raisonnablement de la conviction que l'Iran n'est pas en très grande forme, y compris à travers cette opération. Ils ont envoyé des missiles, 99% interceptés. Oui. Des drones et des missiles interceptés. Et puis, encore une fois, dans l'agenda international, le concert des nations fait bloc autour d'Israël.
Le dôme de fer fonctionne très bien voilà. En Israël.
Dôme de fer diplomatique aussi.
Diplomatique également. Hasni Abidi, justement, on a vu que les Américains ont finalement très peu de pouvoir, aujourd'hui, en tout cas beaucoup moins qu'avant. On se dit que les alliés des Américains, c'est encore pire. Quelle peut être la position de la France aujourd'hui dans la région ?
Bah, c'est l'élément le plus inquiétant. C'est finalement ce duel entre deux poids lourds du monde sunnite, donc du monde iranien, d'abord l'Iran, qui veut aussi avoir un leadership au sein du monde musulman, du monde sunnite. On a vu quelques manifestations en faveur de l'Iran. Et Israël aussi, une autre puissance non-arabe, qui a aussi donc des ambitions importantes régionales. Le système anti-missile, il est aussi appelé à être exporté. Et donc les performances d'hier, c'est aussi un outil commercial très très important. Mais ce qui est à relever, c'est que les États-Unis aujourd'hui et la Russie ne jouent plus ce rôle finalement donc de ni de médiateur ni de régulateur d'un système international qui est en perte de vitesse. Le système international, il est à l'abandon et le nouveau système international n'est pas encore né. Et à mon avis, ce vide abyssal dans le système international permet à des nouvelles puissances émergentes dans l'Iran, peut-être demain l'Arabie Saoudite et Israël aussi, de revendiquer un statut régional important, ce qui va certainement provoquer un grand dérèglement dans les relations internationales.
Mais ce jeu est possible aussi parce qu'il n'y a plus véritablement d'accord de stratégie diplomatique entre États. C'est un jeu d'alliance qui change, qui se renouvelle, sans cesse bousculé. Donc qui sont les partenaires pour discuter ?
Amélie Le Breton.
Alors moi, je voulais juste vous parler de quelle est la ligne de la France, notamment parce que là, Israël a utilisé beaucoup le fait que la France est intervenue hein, pour aussi justement permettre d'intercepter les missiles qui arrivaient, les drones. La France, elle n'a pas d'autre choix, et en tout cas, c'est dans son histoire, que d'être pour la paix. Normalement, c'est donc elle doit, elle, lutter pour qu'il y ait la paix, la sécurité des populations et des sociétés civiles. Or, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, il est fort à parier. En tout cas, moi, si j'étais leur conseiller en communication, c'est ce que je ferais au niveau de l'Élysée et du ministère des Affaires étrangères, d'avoir ce vocabulaire-là, de dire que c'est la paix qu'ils veulent, et que donc c'est pour ça qu'il y a eu une intervention éventuellement de la France, parce que oui, vis-à-vis de la population en France et sur la scène internationale, c'est une ligne de crête pour notre pays entre le monde musulman et Israël.
Et rapidement, Jannick Halimi, en termes de communication, toujours Stéphane Séjourné qui convoque l'ambassadeur d'Iran.
Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit très rapidement. La paix, bien sûr, tout le monde la veut, la paix, mais et pas à n'importe quel prix. C'est bien évident, on est dans une situation de guerre. Et contrairement à ce que je pense, effectivement, jusque ces 10, 20, 30, voire dernières années, le monde de la guerre froide, hein, entre deux superpuissances, c'était délité et ça devenait un monde multipolaire, incontrôlé, avec une Amérique qui regarder ailleurs ou que à l'intérieur d'elle-même, une Russie qui s'affaiblissait au moins économiquement et une Chine qui n'avait pas encore décollé. Aujourd'hui, c'est bien de viser la paix, mais la France, et d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui et ce qu'elle elle fait de façon explicite, il faut choisir son camp parce que justement, me semble-t-il, il y a quand même un monde de blocs qui se reconstitue autour, quelles que soient les valeurs qu'on veut bien donner à ces deux blocs, mais enfin il y a quand même un bloc autour de la Chine, de la Russie et maintenant de l'Iran, et peut-être une partie de ce fameux sud global, qui a tendance à suivre ces puissances-là, et puis un autre bloc avec une Amérique qui peut-être est poussée, mais en tout cas est en train de se réinviter dans le concert mondial comme superpuissance, certes en y étant un peu forcée en Ukraine, au Moyen-Orient, on voit quand même qu'elle revient, en Asie, n'en parlons pas, et autour de ce bloc-là, mené encore par les États-Unis, eh bien la France, les Occidentaux et l'Europe, leur choix est fait. Alors, je ne dis pas qu'il faut être totalement à la remorque des États-Unis, on n'en est pas là, mais je crois que dans cette constitution nouvelle de deux blocs avec des puissances et des valeurs différentes, je pense que la France a bien fait d'avoir choisi le discours et je pense la politique qu'elle va mener dans le contexte.
Malheureusement, cette bataille des valeurs a été perdue par le monde qui est censé représenter le monde libéral et le monde des valeurs. On voit bien aujourd'hui que le droit international est piétiné. On voit très bien aujourd'hui donc la sécurité conséquences de Gaza, qu'il y a une incapacité totale de cette communauté internationale à mettre fin à une catastrophe humanitaire et à trouver une issue pacifique. On voit bien ce qui se passe aussi en Ukraine. Donc j'ai des très peu de doutes, en tout cas beaucoup de doutes sur la capacité du système international à réguler les crises actuelles.
Rapidement, Asnia Bidi,
il est en danger. Les valeurs occidentales sont en danger. Ça veut pas dire qu'elles sont perdues à tout jamais. Au contraire.
Rapidement, Asni Abidi, la convocation de l'ambassadeur d'Iran, c'est pour lui taper sur les doigts?
Toujours. En honnête, bien sûr, pour signifier le désaccord de la France. Il ne faut pas oublier que quand même le Quai d'Orsay a demandé aux ressortissants français de reporter leur séjour dans la région parce qu'il y a une menace réelle sur nos ressortissants dans la région.
20h, 21h, les informés, Benjamin Fontaine.
Et une nouvelle fois, cette semaine, des femmes ont pris la parole pour mettre en lumière la violence sexiste et sexuelle de leurs confrères masculins dans l'armée et dans le milieu hospitalier. On va y venir. Dans l'armée, Manon Dubois a dénoncé des violences sexuelles quand elle était dans la marine. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, a justement annoncé vendredi une mission pour améliorer la prévention, la protection des victimes et les sanctions contre les agresseurs. Et voici la réaction de Manon Dubois en exclusivité sur France Info.
C'est à la fois une satisfaction et à la fois un petit pincement parce que je me dis, mon Dieu, il a fallu qu'on en arrive là pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Évidemment que j'espère que les choses changent, mais j'espère surtout qu'elles évoluent et dans le sens positif du terme. Le fait qu'ils disent qu'il n'y ait pas besoin de récidive et qu'ils appliquent réellement tolérance zéro, c'est ça qu'il fallait faire dès le début en fait. Évidemment que j'aurais aimé ça pour moi, évidemment que j'aimerais ça pour d'autres. Mais justement, ça va permettre à ce que... il n'y ait plus ça à l'avenir et qu'ils appliquent réellement cette sanction. Après, j'aurais tendance à dire qu'il y a des choses à pas faire de la façon dont ils veulent faire, comme par exemple mener leur enquête, mais qu'avec des personnes issues de l'armée.
Amélie Le Breton, une nouvelle fois, il faut une prise de parole forte avant d'avoir des réactions. On a l'impression qu'on n'avance pas beaucoup, finalement.
Ah non, mais c'est même catastrophique ce qui se passe, parce que ça fait des années que le premier MeToo s'est exprimé, a explosé, et on se rend compte qu'il n'y a pas eu d'onde de choc dans toute la société. C'est comme si il n'y avait pas d'effet domino. Il y a encore des pans entiers, il y a des métiers entiers, et on parle de milliers de personnes qui ont vécu ou qui vivent encore dans une organisation qui donc serait sexiste. J'ai été assez frappée, il y a eu l'intersyndicale nationale des internes qui avait mené une enquête en 2022-2023 avec 4000 réponses, et la moitié des jeunes femmes internes et externes témoignaient avoir constaté de remarques sexistes. 18% disent avoir subi du harcèlement sexuel.
On parle de la santé là, du milieu
hospitalier. On parle de la santé. Ce que je veux dire, c'est que on est encore en 2024. C'est comme si on découvrait, voilà, on sort, on ouvre le capot et on se rend compte que c'est encore du grand n'importe quoi dans des secteurs, alors que ça devrait. La conscience et la réflexion sur ces questions-là, elles devraient infuser depuis très longtemps. Ça devrait presque être un problème réglé.
Et on parle encore de comportement grivois alors qu'il est question d'agression sexuelle.
Alors, c'est là où on y reviendra peut-être. Il y a deux choses. Il y a effectivement, dans le milieu de la santé, ce qui se passe avec Karine Lacombe qui a fait des révélations et avec
l'infectiologue.
Voilà, exactement. Et avec Monsieur Pelou. Mais dans le... voilà, ce qui est certain, c'est déjà de se dire, il va falloir qu'il y ait une réflexion sur tous les métiers, sur tous les axes de la société française, pour qu'il n'y ait pas qu'on se dise pas dans 6 mois, il y a encore une affaire MeToo dans un métier qu'on n'avait pas encore imaginé. On a eu le cinéma, le sport, l'hôpital. Ce serait bien qu'en fait, ce soit juste toute
les
la
médias,
société qui prenne,
médias,
voilà, qui prenne enfin conscience qu'il y a un problème et il faut que ça s'arrête.
François,
non, mais ce soir, on évoque l'armée et l'hôpital. Les caractéristiques de ces deux institutions, ce sont deux institutions où les hiérarchies sont écrasantes et pesantes. Et on peut dire que les plaintes qui remontent, là, relèvent le caractère systémique, qui ne veut pas dire systématique. C'est le système avec un chef adulé, etc., une hiérarchie valorisée sans cesse et l'absence de débat interne. Toutes les institutions, ça a commencé dans l'Église avec la sacralisation du prêtre, toutes les institutions qui placent à leur sommet des gens qui ont des statuts exorbitants du droit commun, s'expose à rencontrer des situations comme ça. C'est des systèmes de domination qu'il faut condamner. La domination, elle s'exerce sévèrement là sur les femmes, mais le système global est pervers. Ouais.
Alors justement, vous avez commencé à évoquer le monde de la médecine, donc on va y venir, puisque vous l'avez dit, la prise de parole de l'infectiologue Karine Lacombe a beaucoup fait parler. Elle a dénoncé le comportement supposé problématique de l'urgentiste Patrick Peloux, qui parle aujourd'hui de diffamation. La fédération hospitalière, pointée du doigt par plusieurs soignants, réagit pour la première fois. C'est aussi sur France Info. Sa déléguée générale, Zeynab Rieh, assure lutter pour une libération de la parole depuis plusieurs années.
Dès mon arrivée en 2018, j'ai voulu et nous avons voulu lever deux tabous. Le premier est le tabou des relations confraternelles et lever le tabou sur la violence, les violences sexistes et les inégalités au sein des études de médecine, ce qui nous a d'ailleurs conduit à ouvrir un débat en mai 2018 sous le thème « Touche pas à mon étudiante ». Donc c'est un sujet sur lequel nous sommes fortement engagés. Nous avons mis en place un cadre et des actions, un guide pour les établissements pour que toute forme de violence soit réprimandée, qu'elle soit détectée et pouvoir accompagner et les victimes et les témoins face à cette situation-là.
Alors, la déléguée générale dit agir depuis plusieurs années, hein, Amélie Le Breton, finalement, vous nous en parliez, on le dit depuis des années, mais on voit que ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant. En tout cas.
Alors, c'est bien que certaines instances commencent quand même à organiser les choses. Il faut apparemment du temps, puisque donc, comme vous le disiez, c'est un système avec ses règles, qui a du mal à bouger. Et donc, peut-être que, en tout cas, il faut l'espérer, que les témoignages qu'on entend là, ou du moins la médiatisation très forte à laquelle on assiste, aura valeur de moteur pour un peu dynamiter ce système qui est d'un autre temps et en plus qui paralyse des carrières, qui n'est bon pour personne.
20h, 21h, les informés, Benjamin Fontaine.
Et nous sommes ensemble pendant quelques minutes encore dans Les Informés pour évoquer ce MeToo des armées et ce MeToo dans le milieu hospitalier. Jeannick Halimi, on évoquait l'infectiologue Karine Lacombe qui nous expliquait sur France Info qu'il est important, selon elle, de mettre des visages sur ce qu'il se passe pour porter la cause. Elle a évoqué Patrick Peloux parce que des journalistes l'ont amené à en parler. Vous comprenez son point de vue ?
Quitte à parler, qui est le début de tout le déblocage de ce système. Autant donner des noms et des visages, si vous voulez. Bon, enfin, ce sont les noms qui comptent, bien évidemment. Encore faut-il les donner à bon escient. Bon, laissons faire la justice. Alors, pour le coup, je ne sais pas s'il y a des plaintes qui sont déposées. Mais bon, oublions-le, si vous voulez bien, parce que moi, personnellement, je n'ai pas d'éléments d'information.
Non, bien sûr, mais ce que je voulais dire,
mais
c'est...
Mais oui, c'est important, évidemment, parce que pourquoi ne pas donner des noms ? Après, encore une fois, il faut laisser faire la police, la justice, mais que ça incarne et qu'en plus, si jamais ça touche malheureusement, des personnes connues, si ça peut provoquer des personnes connues ou l'incarnation d'une institution connue, quel que soit son nom, s'il n'est pas connu, si c'est le grand patron d'une institution quelle qu'elle soit, sans citer de nom parmi toutes celles qu'on vient de citer. Évidemment que ça peut créer une sensibilisation, une prise de conscience encore plus forte, de l'opinion publique, des autres victimes potentielles qui pourraient effectivement être amenées à parler, et puis de casser le système qui se nourrit de l'omerta, qui se nourrit de féodalité, de grands patrons, de mandarins, dans le monde des hôpitaux, qui font pression pour des promotions, et au nom, en achetant le silence de leurs étudiantes. Mais juste pour terminer, si déjà tout ça, effectivement, en plus, ce sont des institutions, des mondes qui sont considérés comme au-delà de tout soupçon. Je veux dire, les services publics, l'armée,
on parle d'une certaine admiration pour ce monde-là aussi.
De l'admiration pour les hôpitaux, les médecins. On est plutôt redevable aux médecins qu'autre chose. Donc, effectivement, c'est quelque chose quand même qui n'est pas anodin. Mais une fois que tout ça, l'omerta saute et que petit à petit, peut-être que les mœurs évoluent, il faut aussi que la police et la justice suivent. Une question de sensibilisation et les procédures prennent peut-être plus de temps que ce que l'on voudrait. Pourquoi ? Parce que il y a trois éléments. Il y a les délais de prescription qui souvent font que les enquêtes, si elles sont déclenchées, font des flops, des bouches sur rien. Il y a aussi les attaques en diffamation qui font partie du droit entre guillemets de la défense. C'est pas parole contre parole, mais là, ça freine la procédure. Et puis, il y a aussi, on en parlait, la présomption d'innocence. Oui. On ne peut pas jeter en pâture, surtout lorsque les coupables, entre guillemets, ne sont plus anonymes et portent un nom et un visage, si je puis dire, une image. Toutes ces valeurs-là du droit, même si elles ne vont pas dans le sens d'une accélération de la procédure de justice, sont quand même des verrous extrêmement importants pour que les deux paroles soient entendues et que justice soit faite.
Et il y a parfois une blessure encore plus grande pour les victimes qui n'ont pas le sentiment d'être entendues par la justice, justement parce qu'elles n'ont pas obtenu gain de cause ou de reconnaissance justement de leur préjudice. Et c'est une double punition, une double peine finalement pour elles.
C'est vrai.
Amélie Le Breton, vous vouliez ajouter
C'est dommage presque d'en arriver là à se dire qu'il faut incarner une culpabilité pour qu'enfin ça bouge. Je trouve qu'il y a quand même une réflexion à avoir dans les institutions, dans les entreprises, dans les secteurs, justement pour que ce ne soit plus un problème systémique. On parlait de l'armée. En fait, l'armée, c'est la grande muette. Ouais. Donc, il n'y a pas de figure, typiquement. On ne connaît pas bien les citoyens, les grandes figures dans l'armée. Donc, les noms ne nous disent rien. Et pour autant, il y a, on le sait, puisqu'il y a des témoignages, un problème dans l'armée. Mmh. Donc, ça veut dire que l'armée doit elle-même avoir une réflexion. Et que, comme vous le disiez, ce n'est pas possible de faire de l'entre-soi. Il faut absolument qu'il y ait justement des règles pour que les victimes, en tout cas celles qui estiment être victimes, soient des hommes ou des femmes, puisse être entendu et qu'il y ait des enquêtes justes qui soient menées.
Et François Ehrenwein, vous évoquiez la hiérarchie qui existe, ce système hiérarchique qui existe. Il y a aussi quelque chose de commun à ces deux corps, c'est le bizutage.
Mais tout ça participe d'une culture d'institution. Voilà. Encore une fois, ce qui est problématique, c'est l'adulation du chef et cette forme de sacralisation qui empêche très souvent la parole de se libérer. Et moi, ce qui me frappe, le deuxième aspect des choses, c'est dans le cas de Manon Dubois. Moi, j'ai été frappé, après qu'elle ait alerté sa hiérarchie, l'espèce d'été noir qui s'est abattu sur les reproches qu'elle faisait à son agresseur. Et ça, c'est quand même le temps de latence. Je me réjouis qu'aujourd'hui, les institutions disent « oui, on va ouvrir des commissions, on va mettre en place des choses ». Mais sur les affaires passées, les faits étaient quand même là, et quand même la pesanteur des institutions a contribué largement à étouffer de véritables scandales.
Merci beaucoup, on va devoir s'arrêter là. Je suis navré, on aurait pu continuer encore ce débat, mais le temps passe, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup, chers informés, d'avoir été avec nous ce soir sur France Info. Je remercie Hasni Abidi, directeur du CERNAM, qui était avec nous encore il y a quelques minutes pour évoquer la situation entre l'Iran et Israël. Merci à vous, Jeannick Halimi, Amélie Le Breton, et merci également François Ehrenwein. Je rappelle qu'on vous retrouve dans le journal Réforme, qui met cette semaine à la une la crise à Haïti, sous l'emprise des gangs.
Voilà.
Vous retrouvez.
C'est un sujet. J'insiste pas, mais les questions internationales s'intéressaient à autre chose qu'à l'Ukraine ou à Israël et Iran. Il y a d'autres pays du monde.
Tout à fait. Et on en parle régulièrement sur France Très Info bien. Aussi. Vous retrouvez cette émission en podcast et en vidéo sur notre site franceinfo.fr. Les informés reviennent demain dès 9h avec Jean-Rémy Baudeau. Je vous souhaite une excellente soirée. L'info continue sur France Info.